Bonjour à tous, bienvenue au Conseil de classe, l'émission qui note tout, mais surtout n'importe quoi. Une émission en partenariat entre Croc Radio et l'UPOP. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qu'on ne choisit pas, mais qu'on doit supporter toute sa vie. Non, ce ne sont pas vos parents. On va parler du nom, N-O-M. Et pour parler du nom, on va avoir une équipe au prénom magnifique aujourd'hui, Jean-Michel à la technique. Pour la philosophie, Jean-Julien.
Bonjour tout le monde.
Pour le droit, Solène.
Et bonjour.
Et pour la littérature, Émilie.
Ave.
Et nous commençons tout de suite avec une aventure patronymique de littérature avec Émilie.
Si je vous dis onomastique, sachez que ça n'a rien à voir avec John Lennon. J'espère que vous avez bien ri parce que c'est la seule blague, la suite est très sérieuse. L'onomastique, du grec onoma, le nom, c'est l'étude des noms propres. Et c'est d'après la même racine que l'on forme tous les mots présentant le suffixe onyme en français. Toponyme, nom de lieu, anonyme, dont le nom est inconnu, pseudonyme, un faux nom, un nom d'emprunt, patronyme, le nom du père. C'est ce dernier qui m'intéressera plus particulièrement, et pour vous en parler, je vais revenir à l'Antiquité romaine. Figurez-vous qu'à Rome, les citoyens portaient trois noms. Les tria nomina, si vous avez suivi vos cours de latin en cinquième, le praenomen, prénom, le nomen gentilis, le nom de la gens, la famille, et le cognomen, le surnom, qui pouvait être attribué suite à des exploits guerriers, par exemple, comme Britannicus ou Germanicus, un trait physique, rufus, ça veut dire le roux, ou un trait de caractère. Ainsi, le premier des Scipions vient de la gens Cornelia. Il a reçu le surnom de Scipio, bâton, parce qu'il était, métaphoriquement, le bâton de vieillesse de son père, devenu aveugle. Comme la variété des prénoms n'est pas grande en latin et que pour différencier les branches de certaines familles, le surnom finit par se transmettre, on ajoute parfois un autre surnom. Aussi, pour distinguer le Scipion vainqueur de la bataille de Zama, on lui adjoint la mention Africanus. Il devient donc Publius Cornelius Scipio Africanus, plus connu sous le nom de Scipion l'Africain. Mais ce n'est pas fini. L'adoption était un phénomène très courant à Rome. Quand on était adopté, l'usage était donc de prendre non seulement le nom de sa famille adoptive, mens de garder également le nom de sa gens d'origine suivi du suffixe « anus ». Ainsi, le petit-fils adoptif de Scipion l'Africain, qui s'est lui aussi illustré en Afrique, sinon c'est pas drôle, s'appelle-t-il Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Numantinus, en bref, Scipion Émilien. En fait, la plupart des grands personnages de l'Antiquité romaine ne nous sont connus que par leur surnom. C'est un peu comme si on ne se souvenait de François Mitterrand que sous le nom de Tonton. Si vous trouvez que c'est le bazar, je vous engage à aller jeter un coup d'œil du côté des patronymes espagnols, de l'autre côté des Pyrénées, c'est pas triste.
Oui, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait que les citoyens qui avaient des noms. Il n'y a pas de nom pour les autres ?
Eh bien justement, les esclaves n'ont pas de nom de famille, à moins d'être affranchis. L'absence de nom de famille va de pair avec l'absence d'existence légale et donc de droit. Quant aux filles des citoyens, elles se contentent d'un nom et d'un seul, celui de leur gens, féminisé. Ainsi, la fille de Scipion l'Africain s'appelle-t-elle juste Cornelia.
Mais s'il y a plusieurs filles dans la famille, on fait quoi? On met des numéros?
Eh bien c'est un peu ça. On distingue la jeune et l'ancienne, par exemple, minor, major, et on adjoint le nom du mari féminisé lui aussi. Ainsi, les femmes n'ont d'existence que par leur mari ou leur père. C'est pas terrible. Bon, ce n'est pas si différent aujourd'hui, me direz-vous, mais au moins les femmes ont un prénom et peuvent choisir de conserver leur nom de famille, voire de le transmettre à leurs enfants.
Mais nous, on n'a pas trois noms. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
En fait, l'usage de ces tria nomina est complètement tombé en désuétude à la chute de l'Empire romain. À l'exception des familles nobles, d'ailleurs, dont le nom est rattaché à la terre, au fief, au Moyen-Âge, le nom de famille se perd pour revenir à la fin du Moyen-Âge. Il est d'ailleurs bien souvent un surnom lié au physique, et c'est là qu'on voit revenir nos cognomina, le roux, le brun, le petit, le grand, au métier, pelletier, le pelletier c'est celui qui fait des pots, qui traite les pots, favre, l'artisan, le fèvre, le marchand, métayer, vignat, etc. Ça peut être lié également à l'origine géographique, le breton, picard, l'anglois, l'allemand, etc. À l'endroit où est sise l'habitation, Dupont, Duval, Lacombe, Moulin, ou tout simplement le prénom du père, Pierre, Paul, Jacques, etc. Ou de la mère, Nicole, Marie, etc. Car les noms de famille, au Moyen-Âge, pouvaient être aussi des matronymes, surtout quand la mère était de condition supérieure au père. Il y a donc de fortes chances, pour que votre ancêtre n'ait parlé que par aphorisme, monsieur Devise, ou que le mien ait été un lépreux, Lazare. Je reconnais donc que le nom est un passionnant sujet d'étude. J'aurais pu aussi parler des noms de personnages dans la littérature ou du caractère discriminant du nom, mais sérieusement, 4 minutes, il y avait bien trop à dire.
Merci pour cette appréciation qui laisse présager un bon avenir pour l'élève non. Et ben on va le dire avec les Destiny Childs et Say My Name.
Shady, ain't calling me baby, why the sudden change?
Say my name,
if no one is around you, say baby I love you, if you ain't running game.
Say my name,
you acting kinda shady, ain't calling me baby, better say my name.
The other day, I would call, you would say, baby how's your day, but today, it ain't the same, every other word is a huh, yeah okay. At the crib with another lady. If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me. I'm the girl that you claim. Why don't you say the things that you said to me yesterday?
I know you say that I was doing things.
Something's going down, that's the way it seems.
Shooting me the reason why you're acting strange.
Nobody's holding you back from me.
'Cause I know how you used to do.
When you're saying everything to me times two.
Toujours au conseil de classe, l'émission qui note tout, mais surtout n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer le nom, un élève studieux, en tout cas, je le crois pour l'instant, et on va voir ce que donne cet élève en philosophie avec Jean-Julien.
Une chronique sur les noms, mais nom de nom, comment je vais m'en sortir ? Ben d'abord, on va distinguer. Alors, il y a des noms qui sont déjà là et qui renvoient aux choses ou aux images des choses que nous avons dans notre esprit. Mais il y a les noms que l'on invente, ceux que l'on produit pour désigner une réalité nouvelle ou une réalité problématique. Et ce sont ces noms qui vont nous intéresser. Parfois, le monde se présente à nous dans son infinie complexité et nous sommes dépourvus de repères langagiers pour cerner clairement de quoi l'on parle. Alors, on crée des noms. Ainsi, le nom désigne, mais le nom masque aussi. Et on écrit des livres pour éclaircir le sens de certains de nos noms. On trouve « De quoi Sarkozy est-il le nom ?»« De quoi Kouakoubé est-il le nom ?» ou encore « De quoi le nom est-il le nom ?» pour les petits linguistes malins parmi nous.
Donc, on crée des noms pour expliquer les noms qui expliquent des noms.
Oui, on se trouve dans une situation où les noms peuvent être le signe d'une confusion. Et c'est perturbant puisque les mots peuvent très bien être conçus comme des instruments pour la structuration de la pensée. On se mettrait au clair en se parlant et en parlant aux autres. Mais on le sait depuis les sophistes, l'art de bien parler n'est pas toujours exercé à de nobles fins et parfois les noms, c'est comme les éléphants, ça trompe énormément. On ne sait pas très bien, par exemple, ce qu'est l'islamo-gauchisme. On ne voit pas très bien ce qu'est le wokisme. On n'identifie pas toujours clairement la différence entre un migrant et un réfugié. Et enfin, on ne sait pas trop ce que ça signifie, le réarmement démographique, sinon la demande faite aux Français, peut-être surtout aux Françaises, de faire des enfants pour qu'ils puissent faire leur SNU avant d'enfourcher un vélo pour aller livrer des repas dans toutes les villes du pays, non sans avoir préalablement tenté leur chance sur Parcoursup pour être bien certain qu'ils sont refusés dans les formations qui les faisaient rêver, mais qui sont saturées parce que finalement, et Pascal Praud serait d'accord là-dessus, il y a trop de migrants.
On entretient donc un certain flou sur le monde en inventant des noms ?
Oui, le flou qui accompagne le nom peut servir les intérêts qui sont ponctuellement ceux de la communication du moment. Et on ne compte plus les euphémismes qui accompagnent la présentation d'une situation dont la violence ou le caractère scandaleux était pourtant clair. Il y aurait donc dans un nom toujours plus qu'un banal renvoi à la réalité, mais déjà une image de cette réalité. Une image subjective et parfois volontairement déformée. Une image que l'on veut mettre dans votre esprit, comme si quelqu'un venait dans vos rêves pour y implanter des idées, malgré vous, alors que vous êtes tranquille en train de jouer à la toupie. Tout ça nous amène à considérer qu'il faut faire attention quand on baptise, quand on se situe à ce moment où l'on décide du nom que l'on va donner à quelque chose ou à quelqu'un. Allons voir par exemple comment Robinson, dans le roman de Michel Tournier, s'en sort quand, après avoir longtemps cru être seul sur Speranza, il rencontre un indigène.
Il fallait trouver un nom au nouveau venu. Je ne voulais pas lui donner un nom de chrétien avant qu'il ait mérité cette dignité. Un sauvage n'est pas un être humain à part entière. Je ne pouvais pas non plus décemment lui imposer un nom de chose, encore que c'eût été peut-être la solution de bon sens. Je crois avoir résolu assez élégamment ce dilemme en lui donnant le nom du jour de la semaine où je l'ai sauvé. Vendredi. Ce n'est ni un nom de personne, ni un nom commun, c'est à mi-chemin entre les deux, celui d'une entité à demi-vivante, à demi-abstraite, fortement marqué par son caractère temporel, fortuit et comme épisodique.
Il y a donc dans le nom de Vendredi tout ce que Robinson pense du type d'être qu'est l'indigène. Et il est fier de lui et de sa trouvaille, notre naufragé. Il avait un problème ontologique et il l'a réglé avec un nom de jour de la semaine. Et en le nommant, il a rendu clair le fait que Vendredi n'entrait pas à ses yeux dans la catégorie de l'humanité, mais était rejeté dans la nature comme un sauvage, mot qui d'ailleurs vient ou renvoie étymologiquement à la forêt. Il a marqué du sceau du nom ainsi créé que Vendredi n'avait pas de culture et qu'il fallait qu'il entre de force dans la culture du dominant. Il a fait la preuve que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur des indigènes et de tous ceux que l'on regarde avec les yeux du préjugé. Encore une fois, le baptême ici, ce n'est pas seulement désigné, c'est constitué. Nous rencontrons ce que le linguiste Austin appelle le performatif dans son ouvrage « How to do things with words ». La langue nous permet d'agir concrètement sur la réalité et de la fabriquer. Robinson intervient sur l'être même de Vendredi en le baptisant. Il constitue de manière forte la relation qu'il aura avec lui par le fait de lui donner un nom qui place l'indigène d'emblée dans cet entre-deux insupportable entre la chose et l'homme, avec un espoir réduit d'atteindre le plein déploiement de son potentiel d'humanité. Heureusement, Vendredi est un homme qui aime la vie, et plus tard dans le roman, il ira sur la plage fumer la pipe, celle-là même qu'il a volée à Robinson, et il jettera ce qui lui a tenu lieu d'allumette dans la grotte où son compagnon entrepose la poudre. À la faveur de la grande explosion qui s'ensuit, Robinson verra dans l'œil de Vendredi l'étincelle de l'humanité, et leur relation s'en trouvera durablement transformée. Ainsi, il faudrait faire parfois avec les noms ce qu'on devrait faire en politique, si l'on en croit Léo Dagan, tout cramer pour repartir sur des bases saines.
Merci Jean-Julien pour cet éclairage et cette évaluation philosophique du nom. Il est maintenant le moment des encouragements, c'est le moment de Béranger.
Merci, alors j'aimerais faire un encouragement, non pas par rapport au nom, mais au prénom. Un encouragement très personnel, puisque d'ici quelques mois, je vais devenir papa et je vais donc devoir choisir un prénom. Donc j'aimerais encourager toutes les personnes qui sont dans la même galère que moi. Mais en bon prof, quand je suis face à un problème, je m'oriente auprès de la recherche universitaire. Et j'ai trouvé mon salut auprès d'un certain Baptiste Coulmont qui permet d'avoir une petite idée des chances qu'on donne à la vie d'un enfant en fonction du prénom qu'on lui donne. Alors, mes chers collègues enseignants connaissent, je pense, tous cette histoire. C'est un docteur en sociologie qui, tous les ans, répertorie les résultats du bac en fonction du prénom. Donc, évidemment, hein, je suis très ambitieux pour ma future progéniture, donc n'ai regardé que les résultats sur les mentions. Très bien. On va prendre un chiffre de base, hein, on va dire l'étalon prénom, c'est le Kevin. À votre avis, quel est le pourcentage de Kevin qui a une mention très bien au bac ?
Oh, je sais pas, 10% comme ça ?
Non.
Peut-être un peu plus quand même.
Ah, je dirais moins.
Moi, je connais des Kevin qui sont très forts.
Eh ben, le Kevin a une cote de 4% de mention très bien au bac, alors que l'Anatole est à 35,4%. Sauriez-vous me dire quel est le prénom qui a les meilleurs résultats ?
Mailleul.
Non, bien tenté.
Ouais, ça devient compliqué. Hein. Peut-être un prénom composé.
Pas de prénom composé.
Masculin ou féminin ?
Féminin, meilleur résultat féminin.
Thérèse.
Non, c'est Flore. Alors pour vous dire les meilleurs prénoms, on a Flore, Raphaël, Diane, Cécile, Mina, Mila, Louison, Adèle, Rachel. Chez les garçons, c'est Anatole, Noé, Alix, Hippolyte, Timothée. Vous sentez cette odeur de collier de perles qui vient ou pas là ? C'est-à-dire qu'en fait, enfin, juste comme ça, qu'on est à la stade, donc Flore, on est à 45,7%. De Flore qui ont une mention très bien au bac. Si on prend Steven, on est à 2%. Vous voulez quelqu'un avec une mention très bien au bac, vous pouvez attraper 50 Steven ou 2 Flore. La cote n'est pas exactement la même. Alors, mon collègue Jean-Julien de philosophie me dirait « Tu fais une erreur causale, ce n'est pas le prénom qui crée l'intelligence. »
Je te dirais surtout que la Flore s'en sort visiblement mieux que la faune.
Effectivement. Bon, en tout cas, il y a une erreur causale. Ce n'est effectivement pas le prénom qui crée l'intelligence. Je fais une erreur, je confonds corrélation et causalité. Comme on dirait, et là je parle sous le contrôle de ma collègue de littérature, Émilie, c'est une erreur d'attribution qui s'appelle ergo hoc procter hoc. C'est à peu près
Procter,
ça.
Procter.
Hein. Procter hoc.
Procter, ça serait autre chose.
Qu'on appelle en français plus simplement l'effet cigogne. C'est le moment où on pense que c'est dans les villes où il y a le plus de cigognes qu'il y a des enfants, donc les cigognes amènent les enfants. On confond causalité, corrélation. Dans les très drôles, beaucoup d'articles, beaucoup de journaux ont titré « Le chocolat rend intelligent » parce que les pays où on mangeait le plus de chocolat étaient les pays avec le plus de prix Nobel. Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'il y a une cause commune. C'est les pays où on a les moyens de se payer du chocolat, où on a les moyens d'éduquer des jeunes pour avoir le prix Nobel. Et personnellement, mon préféré, vous savez que vous avez 10 fois plus de chances d'avoir mal à la tête si vous vous couchez avec vos chaussures. Ce n'est pas un problème de circulation du sang lié aux chaussures. Il y a un lien commun, enfin il y a une cause commune entre le fait de se coucher avec ses chaussures et d'avoir mal à la tête le lendemain. Hein, je ne sais pas si vous l'avez ou pas.
L'alcool ?
Oui, voilà. J'allais sous-entendre qu'on peut faire le test après l'émission au bar du Temple ou autre bar, n'importe lequel. Je vais tous les citer pour ne pas faire de pub. après l'émission. Mais oui, c'est l'alcool en commun. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas en donnant à votre enfant un prénom que vous allez lui donner plus de chances dans la vie. Par contre, ces statistiques nous amènent à nous poser des questions sur les inégalités au moment de l'éducation. Des questions auxquelles je n'ai pas du tout envie de répondre, puisque j'ai une théorie à les tester avec mes copains au bar d'à côté. On va continuer avec quelqu'un qui, je pense, aussi a testé beaucoup de choses avec ses copains, Eminem, avec My Name Is, toujours sur le thème du prénom.
Attention of the class. For one second.
My name is Hi, kids.
kids? Do you like violence?
Yeah,
wanna
yeah,
see
yeah.
me stick 9-inch nails to each one of my eyelids?
Uh-huh.
Wanna copy me and do exactly like I did?
Yeah,
Try
yeah.
sit and get fucked up worse than my life is?
Huh?
My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna impregnate. And Dr. Dre said,
Slim Shady, you a basic.
Uh-uh.
Why's your face red? Man, you wasted.
Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bunk with a belt. Got pissed off and ripped Pamela Lee's tits off and smacked her so hard I knocked her clothes backwards like crisscross. I smoke a fat pound of grass and fall on my ass faster than a fat bitch who sat down too fast. Come here, slut. Shady, wait a minute, that's my girl, dawg. I don't give a fuck, God sent me to piss the world off.
Hi, my name is
What?
My name is
What?
My name is
wanted to flunk me in junior high. Thanks a lot. Next semester I'll be 35. I smacked him in his face with an eraser. Chased him with a stapler. Stapled his nuts to a stack of paper. Walked in a strip club. Had my jacket zipped up. Flashed a bartender. And stuck my dick in a tip cup. Extraterrestrial. Running over pedestrians in a spaceship while they screaming at me.
Let's just be friends.
99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more dope than I do. I told her I'd grow up to be a famous rapper. Make a record about doing drugs and name it after. You know you blew up when the women rush your stands. You try to touch your hands like some screaming Usher fans. This guy at White Castle asked for my autograph, so
autograph?
I signed it. Dear Dave, thanks for the support, asshole.
Hi, my name is
This kid needs to be locked away.
Get him!
Dr. Dre, don't just stand there, operate. I'm not ready to leave, it's too scary to die. I'll have to be carried inside the cemetery and buried alive.
Yep.
Am I coming or going? I can barely decide. I just drank a fifth of vodka. Dare me to drive?
Go ahead.
All my life I was very deprived. I ain't had a woman in years, and my palms are too hairy to hide.
Whoops.
Clothes ripped like the Incredible Hulk. I spit when I talk. I fuck anything that walks.
Come here.
When I was little, I used to get so hungry, I would throw fits. How you gonna breastfeed me, mom? You ain't got no tits. I lay awake and strap myself in the bed with a bulletproof vest on and shoot myself in the head.
Bang.
I'm steaming mad. And by the way, when you see my dad,
yeah,
tell him that I slit his throat in this dream I had.
Hi, my name is
What?
My name is
Rebonjour à tous, vous êtes toujours au Conseil de classe, l'émission qui note tout mais surtout n'importe quoi. Aujourd'hui, on évalue l'élève non, une émission en partenariat entre l'UPOP et Croc Radio et on va laisser la parole à Solène pour nous parler du non et du droit.
Connard !
Enchantée, moi c'est Chirac. Je ne pouvais pas passer à côté de cette réplique d'anthologie pour ouvrir une chronique sur les noms. Alors rassurez-vous, l'élève non et prénom en matière de droit, c'est un génie. Il a tout prévu. Ouf. Tant mieux pour ce pauvre monsieur connard qui a lancé ma chronique il y a quelques instants. En effet, les articles 61 à 61.4 du Code civil donnent la possibilité de changer de nom à toute personne de nationalité française qui justifie d'un intérêt légitime. Qu'est-ce qu'un intérêt légitime dans le domaine du changement de nom ? Eh bien, il s'agit de porter un nom ridicule, péjoratif ou grossier, ou encore un nom célèbre mais porteur d'une mauvaise réputation, d'éviter l'extinction d'un nom de famille en usage depuis longtemps dans la famille, ou bien les frères et sœurs d'une fratrie qui souhaitent porter le même nom, à condition qu'ils aient le même père et la même mère. Ou encore pour éviter de supporter les conséquences graves d'une condamnation d'un ascendant père ou mère. La notion de légitimité est appréciée de plus en plus largement par les décisions de justice et les demandes de changement de nom sont largement accordées aujourd'hui. La demande de changement de nom est formalisée par une requête adressée au ministre de la Justice, notre cher garde des Sceaux. Si elle est acceptée, il faudra ensuite compter en moyenne 110 euros pour les frais de publication, puisque comme tout acte officiel, le changement de nom devra être mentionné au journal officiel et dans un journal d'annonce légale de votre commune. Voilà, pour Monsieur Connard, affaire réglée. Concernant les prénoms, le droit s'en mêle également. Pendant longtemps, cette liberté était toutefois limitée par l'obligation d'attribuer un prénom calendaire ou historique, d'où les heureux Fête-Nat, né le 14 juillet. C'était la loi du 11 germinal en 11, l'article 1er. Puis, une loi plus récente, du 8 janvier 1993, abrogea le droit ancien pour consacrer le principe de la liberté des parents dans l'attribution du prénom de leur enfant. Le prénom, seul ou associé au nom de famille qui figure sur l'acte de naissance, ne doit toutefois pas être contraire à l'intérêt de l'enfant. Par exemple, un prénom ridicule ou grossier. L'enfant qui porte le nom d'un seul de ses parents ne peut pas avoir comme prénom le nom de l'autre parent. Il y en a quand même qui ont des idées tordues, mais un enfant qui a pour parents Monsieur Dupont et Madame Martin ne peut pas s'appeler Martin comme prénom et Dupont comme nom. Alors si beaucoup de légendes urbaines circulent autour du choix des prénoms, et surtout de leur refus par les officiers de l'état civil lorsqu'ils sont trop loufoques, il est exact que Titeuf, inspiré de la bande dessinée, a été par exemple refusé en vertu du respect de l'intérêt de l'enfant. C'est en 2009 que l'état civil s'était opposé à ce choix de parents, qui s'était ensuite lancé dans un combat judiciaire jusqu'à la cour de cassation, mais après un ultime refus, les parents avaient été contraints d'opter pour le deuxième prénom de leur enfant, Grégory. Idem pour le tribunal de Valenciennes qui a préféré renommer Ella, une petite fille née en 2014 que les parents avaient appelée Nutella à la naissance. Puisque je vous ai parlé de nom et de prénom, je me dois de terminer avec ce qui complète le tableau entre le prénom et le nom, les particules. Alors non, elles ne peuvent ni être achetées, ni être vendues comme le voudrait la rumeur. Désolée de vous décevoir. En droit, le nom est obligatoire, immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut en principe pas en changer, imprescriptible, cela signifie qu'on ne peut pas le perdre même si on cesse de l'utiliser, et incessible, on ne peut ni le vendre ni le céder, même s'il s'agit simplement de la particule. En revanche, la jurisprudence autorise la reprise d'un nom abandonné par des ascendants, notamment sous la Révolution française où il valait mieux éviter de porter un nom à consonance aristocratique ou à particule. Dans cette hypothèse, le nom ne figurait alors plus dans les registres, mais il continuait à être utilisé à titre d'usage. Et si cet usage a été loyal et continu, comme le précise la Cour de cassation dans l'arrêt du 15 mars 1988, les descendants pourront réinscrire le nom sur les registres d'état civil, et donc récupérer une particule. C'est précisément ce qu'a fait en 1922 Edmond Giscard, le père de Valéry Giscard d'Estaing. La famille Giscard fut anoblie par un décret du Conseil d'État à la demande d'Edmond. C'est lui qui obtint l'ajout à son patronyme de Destin, une famille noble dont il descendait. Voilà, c'était juste une info en passant pour ne pas laisser ce pauvre Chirac tout seul dans cette chronique. Et concernant mon appréciation sur le bulletin des noms, pour le droit, je dirais qu'importe la particule, pourvu qu'on ait la partie tête, même si je ne suis pas sûre que Rocco Siffredi partage ce point de vue.
Je trouve ça magnifique de terminer une émission sur une référence à Rocco Siffredi. Ça sent la culture. C'était le conseil de classe, l'émission qui note tout et surtout n'importe quoi. Vous m'avez perturbé avec ça. Un grand merci à nos chroniqueurs, Solène pour le droit, Émilie pour la littérature, Jean-Julien pour la philosophie et Jean-Michel pour la technique. N'oubliez pas de regarder sur le site de l'UPOP pour les prochaines conférences et on vous dit à très bientôt.